Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est actuellement 20h30, même heure à Kinshasa, 19h30 à Bamako et en temps universel.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition d'Afrique Soir, le naufrage d'une baleinière dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 40 morts et une centaine de disparus. Nous entendrons le témoignage d'un responsable de la société civile de la région. En République démocratique du Congo, toujours, clarification du ministère de la Santé sur l'épidémie qui sévit actuellement au Congo dans l'Ouest. Les tests effectués suggèrent un syndrome de paludisme grave qui s'ajoute à une détresse respiratoire. Nous entendrons le directeur pays de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Et puis au Mali, allègement de la mesure de suspension de Djoliba TV. La licence de la chaîne est rétablie, mais reste suspendue pour 6 mois. Djoliba TV et la maison de la presse restent mobilisées, mais jouent la carte du dialogue avec les autorités. Et on commence par cette nouvelle tragédie dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Une embarcation surchargée a fait naufrage au port de Lolo, dans le territoire de Ligandé. Le bilan provisoire fait état d'au moins 40 morts et une centaine de disparus. Retour sur les faits avec Joseph Bayoko Lokondo, membre de la société civile locale.
Ici, dans la province de l'Équateur, nous avons connu un naufrage. La baleinière s'appelait Mama Witi. Il y a des disparus et les recherches continuent sur terrain. Cet accident s'est opéré à plus de 160 km du chef-lieu de la province, donc la ville de Mbandaka, et la rivière Lulonga, un affluent du fleuve Congo. Jusqu'à la preuve du contraire, aucune autorité, même locale là-bas, même provinciale, n'a pris une mesure pour récupérer le corps. J'ai entré en contact avec les survivants aujourd'hui qui passent nuit à la belle étoile au niveau des Lolo. Les corps qui ont été repêchés sont enterrés par la population. Il n'y a pas d'équipe de secours. Ce sont les villageois qui se sont organisés pour essayer de continuer à retrouver les corps sans vie.
Voilà, propos recueillis par Weli Diallo. On y reviendra, bien entendu, dans nos prochaines éditions. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi cette clarification du ministère de la Santé sur l'épidémie qui sévit actuellement au Congo dans l'Ouest. Les tests effectués sur place suggèrent un syndrome de paludisme grave qui s'ajoute à une détresse respiratoire. Détresse dont l'origine n'est pas encore formellement identifiée. Le dernier bilan fait état de près de 600 cas recensés avec une létalité de 6,2%. Une équipe de Médecins sans frontières est arrivée sur place. Emmanuel Lampart est le directeur pays de l'Organisation République démocratique du Congo.
On a pu le lire tous, maladie inconnue, maladie mystérieuse. Revenons aux bases. Le principal tueur dans ce pays reste encore le paludisme. Le paludisme sur un fond de malnutrition chronique, sur une saisonnalité d'infection respiratoire aiguë, mais surtout au sein d'un système sanitaire qui peine à se relancer, à se reconstruire. Certes, il y a des belles initiatives avec la première phase de la couverture sanitaire universelle, mais est-ce qu'elle atteint les populations au fin fond des provinces, au fin fond du forêt équatorien? Et ce n'est qu'une première phase. Donc l'ensemble des efforts doivent toujours être là, et surtout, revenons aux bases et à la connaissance qui est là depuis des décennies sur les principales tueurs et mettons en place les bases des programmes de réponse qui sont connus et qui ne sont pas mystérieux du tout.
Un propos recueilli par Paulina Zidi. Et en restant en République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée appuyée par les milices Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus eux par le Rwanda se sont poursuivis ce dimanche. De violents combats dans le territoire de Lubero. L'armée a engagé pour la première fois des hélicoptères. Les positions rebelles ont été bombardées sur l'axe Mambasa-Nduta, à plus de 150 km au nord de Goma, la capitale provinciale. Ces combats d'une grande intensité ont duré toute la journée, selon des sources concordantes. Au Mali, la mesure de suspension infligée à Djoliba TV le 23 novembre dernier a été revue à la baisse cette semaine. La licence de la chaîne est bien évidemment rétablie, mais reste suspendue pour 6 mois. de Liba TV avait été sanctionné pour la diffusion d'un débat au cours duquel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso avait été mise en doute. Depuis, la chaîne et la maison de la presse restent mobilisées et jouent la carte du dialogue avec les autorités. Explication David Bachet.
Nous avons décidé de jouer l'apaisement compte tenu de la complexité de la situation et de la fragilité du pays, décrypte un dirigeant de la maison de la presse, qui précise que la décision a été prise à l'unanimité. Certains envisageaient pourtant une mobilisation plus forte. On ne négocie pas sur les principes, déplore un cadre déçu de Djoliba TV. Cela conforte la haute autorité de la communication dans son projet de démolition des médias. Au début de l'affaire, la maison de la presse avait menacé d'appeler tous les médias du Mali à rediffuser l'émission, qui a valu à Djoliba TV d'être sanctionné, avant d'entamer de discrètes discussions avec la HAC. « Il faut savoir mener le combat avec intelligence », commente un autre journaliste phare de Djoliba TV, qui ajoute que l'enjeu est collectif et la détermination reste intacte pour la survie des libertés. Les représentants des journalistes du Mali savent que ce dossier, éminemment politique, dépasse le strict cadre de la HAC et jugent que poursuivre les négociations avec l'autorité de régulation sera plus efficace, du moins à ce stade, que d'entrer dans un mouvement de protestation plus musclé. Une stratégie qui a déjà permis à Djoliba TV de récupérer sa licence, même si le maintien d'une suspension de 6 mois demeure inacceptable pour la chaîne et pour toute la profession.
Explication signée David Bachet. Et puis le bilan des mouvements de foule meurtriers survenus samedi au Nigeria s'est alourdi. Il est désormais de 22 morts selon la police. Un premier bilan établi samedi faisait état de plusieurs personnes décédées sans plus de précision. On savait simplement qu'à Abuja, la capitale fédérale, 10 personnes avaient été tuées et 8 autres blessées. Tragédie survenue lors de distribution de denrées alimentaires. Le président Bola Tinubu avait annulé tous ses rendez-vous officiels en hommage aux victimes. Depuis quelques jours, la rumeur d'un transfert de militaires russes de la Syrie vers la Libye inquiète certains observateurs internationaux. Effectivement, au lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad, des rotations d'avions de transport russes avec du matériel avaient été observées. Des vols à destination des territoires sous contrôle des forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Quelques jours plus tard, le Premier ministre d'Union nationale, Abdulhamid Dzbeiba, déclarait que l'arrivée de nouvelles troupes russes sur le territoire national serait, je cite, « inacceptable ». Des informations à prendre avec prudence selon Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Écoutez.
Les seules informations à disposition sont les informations émanant de Rome et bien sûr les déclarations du chef du gouvernement libyen, le gouvernement de l'Union nationale, M. Dbeiba, qui avait déclaré qu'une présence accrue russe sur le territoire libyen est perçue comme une menace. Donc si le chef du gouvernement lui-même n'est pas en mesure de confirmer cette information, c'est très difficile pour nous de dire si vraiment des unités militaires russes se sont déplacés de la côte syrienne, exactement de Tartous et de Hmeymin, en direction de la Libye. Mais on sait que les Russes ont essayé à maintes reprises de construire une base navale à l'est libyen et n'ont pas réussi, mais ils ont des positions militaires très importantes dans la partie qui est dirigée par M. Haftar. Mais difficile dans un court temps de remplacer les deux bases militaires en Syrie, d'autant plus que la Russie n'a pas encore manifesté son souhait de quitter les bases actuelles en Syrie.
Hasni Abidi, propos recueillis par Paul Lorgerie. Et puis l'actualité de ce dimanche, c'est aussi du sport, du football, avec la suite notamment du deuxième tour des éliminatoires du Tchad. Bonsoir Saliou Diouf.
Bonsoir Zéphirin.
Saliou Diouf du service des sports, on fait le point avec vous sur quelques résultats des matchs allés de cette journée.
Et sachez qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais il y en a eu quand même. Le Soudan du Sud s'est imposé face au Rwanda sur le score de 3-2. L'autre Soudan a battu l'Éthiopie à l'extérieur 2-0. Les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont imposés face au Burkina Faso sur le même score, c'est-à-dire 2-0. Pas de but entre le Ghana et le Nigeria, score 0-0. Match nul entre le Libéria et le Sénégal, 1-1. Même score entre le Togo et le Niger. Et la Mauritanie s'est imposée il y a quelques minutes sur sa pelouse face au Mali, 1-0. Et je vous rappelle juste que la Zambie est automatiquement qualifiée car le Mozambique est forfait au vu du contexte politique au pays. Et le début des matchs retour, c'est-à-dire à partir de mercredi 25 décembre, jour de Noël, et la fin de ces rencontres auront lieu le 29 décembre.
Merci beaucoup, Salih Diouf du service des sports de Radio France Internationale.